Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi juste à Kinshasa, 13h à Bouta, dans les Baouélé. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. À l'approche des fêtes de fin d'année, la ville de Goma, encore sous la pression de l'occupation de l'AFC 123, présente un visage inhabituellement calme. Une timidité palpable s'est installée là où les rues et marchés vibraient autrefois au rythme des préparatifs. Le gouvernement provincial d'Ibaouélé vient d'acquérir des engins pour la réhabilitation et la construction des routes. Ce matériel acheté sur fonds propres a été présenté à la population hier, samedi à Bouta, par le gouverneur de province. L'invité de ce journal est l'expert politique et ancien journaliste camerounais André-Michel Essungu. Il parle de son ouvrage intitulé « Coupe d'Afrique, la petite histoire de la CAN ». Mesdames, Messieurs, bonjour. Pierre Diassounoua assure la technique et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Nord Kivu, pour commencer, à l'approche des fêtes de fin d'année, la ville de Goma, encore sous la pression de l'occupation de l'AFC M23, présente un visage inhabituellement calme. Là où les rues et marchés vibraient autrefois au rythme des préparatifs, une timidité palpable s'est installée, marquant et profondément le quotidien des habitants. Un reportage de Bernard Denyangui.
Ce seront des fêtes passées dans une situation de frustration pour plusieurs, estime cet habitant.
Les citoyens vivent sous la frustration totale. Cette guerre qu'a connue la ville de Goma a causé des événements malsains. Au-delà de ces morts, il n'y a pas l'autorité de l'État. Alors comment ils pourront fêter?
Une autre raison exacerbant l'atmosphère morose demeure la faible circulation de la monnaie. Après 11 mois de fermeture des banques, les ménages n'ont plus accès à leurs revenus habituels. Témoignage.
Les parents aujourd'hui ne sont pas en mesure même de passer au marché pour se procurer des habits pour leurs enfants. La situation actuelle n'est pas bonne.
Dans les marchés comme Ibirere, les commerçants se plaignent également. Les stands sont moins fréquentés et les achats se font rares.
Je suis vendeuse à Birere. Nous nous demandons si les familles mangent encore. Malgré la baisse des prix des marchandises, les sacs de riz ne bougent pas, l'huile n'est pas achetée, nous ne voyons pas encore la température des fêtes.
Cependant, malgré ce contexte difficile, la ville de Goma reste partagée entre l'incertitude et la résilience. Plusieurs articles essentiels voient leur prix baisser en cette période de fin d'année, permettant d'alléger légèrement le coût de la vie.
Toujours à l'approche des fêtes de Noël et de Nouvel An, dans la province du Maniema, le maire de Kindu, Atibou Moulamba, prend une mesure stricte pour garantir la tranquillité et préserver la santé publique de ses administrés. Il interdit la commercialisation et l'usage des pétards. Il invite par ailleurs les services de sécurité à mettre la main sur tous les récalcitrants. On l'écoute, Atibou Moulamba, au micro de Florence Kizalunga.
En rapport avec l'usage des pétards, il a été constaté que dans certains quartiers, il y a des jeunes qui s'adonnent à cette activité-là. Et je rappelle à la population de Kindu que tout celui qui détient, qui commercialise et qui fait usage des pétards se met en position d'infraction. Et l'État est là, il va s'occuper de lui. Et les services de sécurité, les services de l'ordre sont en train de m'écouter. Je leur ai déjà écrit, il y a des instructions. C'est une façon de rappeler nos services et de rappeler aussi à la population que personne ne peut se permettre de continuer à faire usage de ces détonations dans la ville de Kindu. Ça nous gêne. La première des choses, c'est que nous sommes agressés. Quand il y a détonation, ça fait croire qu'il y a guerre chez nous. Alors que Kindu en particulier et les Maniema en général est dans la paix. Le chef de l'État est en train de maintenir la paix dans notre province. Deuxième chose, c'est qu'il y a recrudescence des vols à main armée. Et lorsque on entend ces détonations-là, ça peut mettre la population dans la psychose, croyant peut-être qu'il y a guerre. La troisième des choses, c'est qu'il y a des gens qui sont sensibles par rapport à leur santé, qui ne peuvent pas supporter ces bruits-là. Il y a des hypertendus qui peuvent piquer des crises et mourir à cause du fait qu'il y a ces détonations-là. Voilà pourquoi nous avons été amenés à rappeler cette mesure qui existait il y a longtemps.
Je le disais au début de ce journal, les routes du Baouélé vont bientôt revêtir d'une nouvelle robe. C'est à la faveur de l'acquisition par le gouvernement provincial des engins pour leur réhabilitation et construction. Ce matériel acheté sur fonds propres de la province a été présenté hier samedi à la population par le gouverneur de province, Mike David Mokeni. C'était au cours d'une cérémonie publique organisée au rond-point du cinquantenaire dans la ville de Bouta. Le point avec Jacques Moukonkolé.
Au total, 18 engins ont été présentés au public par les gouverneurs de province. Il s'agit des deux excavatrices, deux bulldozers et deux porte-chars. Trois chargeurs, trois nivelleuses, trois camions bennes ainsi que trois compacteurs font également partie de ce lot. Avec cette dotation, le gouverneur Mike David Mokeni matérialise sa promesse formulée lors de sa prise de fonction il y a de cela 17 mois. Il avait dit en substance qu'il plaçait l'aménagement du territoire et des infrastructures routières au cœur de son action gouvernementale et cela conformément à la vision du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi a souligné le gouverneur veut des provinces autonomes capables de prendre en charge la réhabilitation de leurs infrastructures de base. Commentant cette acquisition, le ministre provincial en charge des infrastructures fait savoir que l'objectif de ces engins est d'assurer la maintenance des routes réhabilitées et par conséquent contribuer à la réhabilitation des routes de la province aussi bien d'intérêt national, provincial que local. À cet effet, Elie Aloua précise que ces engins vont être déployés dans deux brigades pour la route nationale numéro 4, tronçon Doulia-Bondondou, et la nationale numéro 6, tronçon Dunia-Aketi. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
En bref, dans la province du Haut-Katanga, un accident de la route a fait une dizaine de blessés hier samedi sur l'axe Lubumbashi-Likasi, sur une descente non loin du village Kakila. D'après la Commission nationale pour la prévention routière CNPR, un grand bus de transport de la compagnie Ngokaf s'est renversé. La cause de cet accident serait la distraction au volant. Le chauffeur était en train de causer au téléphone en roulant lorsque l'accident est survenu. Les passagers sont les membres de la chorale de la communauté Gariganze de la commune Rwashi à Lubumbashi. Par ailleurs, au Kasaï oriental, le site du programme volontariste agricole PVA d'un Kwadi dans le territoire de Tshilenge sera bientôt exploité par un autre investisseur en remplacement des BAB Bio Agrobusiness. Cette information a été annoncée au gouverneur de province vendredi dernier par la coordinatrice nationale du programme volontariste agricole. Des explications avec Jean Gandou.
Ce changement va s'opérer sur instruction du ministre d'État à l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Moïndo Zangi Butondo. C'est ce qu'affirme Vivi Kalongi, coordinatrice nationale du programme volontariste et agricole.
Nous sommes venus avec le nouveau partenaire qui va prendre le site de Nkouad, qui est le site du programme volontariste agricole. Son Excellence s'était passé ici et il vous avait promis qu'on devrait changer. C'est comme ça que nous sommes venus avec le nouveau et aller voir le site, présenter le site pour que les enfants du Kasaï aient leur farine et qu'ils puissent en avoir en abondance.
Le site agricole d'Nkwadi est situé à environ 40 km de Mbujimayi. Ce projet du gouvernement vise à lutter contre l'insécurité alimentaire en créant une chaîne de production de maïs et de manioc sur plusieurs centaines d'hectares pour soutenir les agriculteurs locaux et moderniser l'agriculture régionale avec des usines de transformation en farine. C'est depuis 2022 que ce site est exploité par l'entreprise Bio Agro Business. Selon Vivi Kalongi, le nouveau partenaire a proposé un projet prometteur.
Nous voulons maintenant évoluer. Il est différent de BAB parce que BAB n'était qu'un enfant qui apprenait à marcher. BAB, c'était vraiment du fiasco. Mais lui, il a fait de preuves dans notre province. Donc il est venu pour faire ce qu'il a fait ailleurs.
Notons que le site d'Nkwadi a une superficie estimée à plus de 2000 hectares.
Des dizaines de bureaux d'échange et messagerie financière, toujours dans les viseurs de la Banque centrale du Congo, ils sont priés de prendre contact avec les services de la direction de surveillance des intermédiaires financiers afin de régulariser leur situation administrative au risque du retrait de leur agrément. L'autorité de régulation monétaire rappelle en même temps la dissolution de la messagerie financière Force Unie SARL. Information contenue dans les derniers avis et communiqués de la BCC au public, parvenu hier samedi à Radio Okapi. Le chef de village Kalolo dans les territoires de Moba en province de Tanganyika s'insurge contre les tracasseries des éléments des FARDC dans la chefferie Kansalaba. Il a fait savoir vendredi dernier à l'administrateur du territoire et au commandant bataillon des forces terrestres. D'après lui, les éléments des FARDC s'introduisent par force dans des maisons. Ils agressent et rançonnent les habitants. L'administrateur du territoire promet de s'y pencher pour des solutions appropriées. Les détails avec Pone Munanga.
Devant les autorités politico-militaires du territoire de Moba, le chef du village Kalolo demande le remplacement des militaires des FARDC présents dans les villages. Il décrit ici les agissements des militaires contre la population. Les militaires des FARDC tracassent la population. Ils s'introduisent par effraction dans des maisons et tabassent les occupants et parfois ils font marcher nus en public certaines personnes et exigent de l'argent. Je viens informer l'administrateur du territoire de Moba sur les exactions commises par les militaires sur la population. Ces militaires qualifient tous ceux qui ne détiennent pas de cartes d'électeur comme étant des Ouazalendo ou des éléments. Ils exigent entre 100 000 francs et 500 000 francs congolais. Ils ont aussi confisqué des chaises chez une personne. Nous demandons à l'administrateur du territoire de nous aider. Face à cette situation, plusieurs habitants fuient le village et se réfugient à Pweto. En réaction, l'administrateur du territoire de Moba envisage la possibilité de remplacer les éléments des FARDC qui se trouvent au village Kalolo par d'autres unités. Victor Kanfoua promet de mettre fin aux exactions des militaires des FARDC sur la population de ces villages. Lubumbashi, Ponemunanga, Radio Okapi.
En Ituri, le Parlement des jeunes salue le renouvellement d'un an du mandat de la MONUSCO par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans une déclaration faite ce dimanche à Bunia, cette structure indique que ce nouveau mandat va permettre au casque bleu de la MONUSCO de continuer à sécuriser des milliers de personnes déplacées dans leur site contre les attaques des groupes armés dans les territoires des Djougou. Elle souhaite qu'il y ait l'implication directe des structures des jeunes dans les processus de paix afin d'appuyer la mission onisienne. Son président, Gloire Abassi, encourage la MONUSCO à mettre en pratique le chapitre 7 du Conseil de sécurité de l'ONU. Il a dit au micro de Marcel Kizabiamungu.
Vraiment, nous l'avions accueilli avec un sentiment de satisfaction, tenant compte de l'appui qui ne cesse de réaliser la MONUSCO à protéger et à sécuriser nos concitoyens qui sont dans les territoires du Djougou, dans les territoires du Rumu, là où il y a les affres de la guerre. Et ce mandat renouvelé de la MONUSCO doit sûrement aujourd'hui permettre qu'il y ait la stabilité en Ituri, qui est aujourd'hui l'implication directe des structures d'encadrement de jeunes dans les processus de la paix pour appuyer davantage la MONUSCO. Nous aimerions assez que la MONUSCO puisse avoir cette fois-ci l'applicabilité du chapitre 7 du Conseil de sécurité de l'ONU, où quand il y a attaque des groupes armés, logiquement ces miliciens doivent sentir les faits. Parce que la MONUSCO est du côté de notre pouvoir et du côté de notre armée.
La Coupe d'Afrique des Nations de football CAN démarre ce dimanche au Maroc. Les différentes délégations sont déjà sur place pour cet événement sportif africain de grande envergure. Toutes les sélections affichent de grandes ambitions pour cette édition, mais au finish, une seule montera sur la plus haute marche du podium. Jean Gandou pour des détails.
La 35e édition de la CAN réunit 24 équipes. 6 villes marocaines vont accueillir la compétition. Il s'agit des Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fès et Tanger. Au total, 9 stades serviront de cadre aux différentes rencontres. Le match d'ouverture opposera le Maroc aux Comores au complexe scolaire Prince Moulay Abdallah de Rabat. Et c'est également dans ces installations que se jouera la finale le 18 janvier prochain. Les 24 nations sont réparties en 6 groupes de 4 équipes. Les grosses pointures du football africain sont présentes, rendant ainsi difficile toute prédiction sur l'équipe qui montera sur la plus haute marche du podium le 18 janvier prochain. Presque toutes les nations africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 participent à cette CAN, à l'exception du Cap-Vert et du Ghana. La RDC, quant à elle, attend son match de barrage en mars prochain pour espérer décrocher son ticket pour le Mondial. Autant dire que la compétition s'annonce relevée pour toutes les équipes. À noter que les trios arbitrales du match d'ouverture entre le Maroc et les Comores et congolais. L'arbitre central se nomme Jean-Jacques Ndalangambo, son premier assistant Guilhem Bongelengila et le deuxième Moigna Gradel Mbilizi. Enfin, notez que la RDC fera son entrée en lice le 23 décembre prochain et ça sera face au Bénin.
Actualité internationale.
Alors que le président centrafricain brigue un troisième mandat lors des élections du 28 décembre prochain, l'un des projets majeurs de Faustin Archange Touadéra n'a pas abouti. Faire du pays un pionnier des crypto-monnaies en Afrique. Dans un rapport critique publié cette semaine, l'ONG Global Initiative accuse ses devises d'ouvrir même la porte aux crimes organisés et de ne pas profiter à la population.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'expert politique et ancien journaliste camerounais André-Michel Essungu. Il parle de son ouvrage intitulé « Coupe d'Afrique, la petite histoire de la CAN ». Ce livre retrace l'histoire de cette compétition africaine de football en montrant les liens qu'elle a toujours eu avec la politique et pourquoi ces liens étroits. Michel André-Michel Essungu s'entretient avec Dona Madimba.
André-Michel Essungu, bonjour.
Bonjour.
Avant de dire un mot sur ce que nous avons retenu de cette publication, comment vous-même, vous présentez cet ouvrage ? Plus qu'un livre de foot ou tranquillement, un ouvrage de sport comme un autre ?
C'est un livre qui dépasse le foot. C'est un livre qui parle de foot, mais en réalité qui raconte une histoire politique, une histoire sociale, une histoire culturelle. Il faut savoir que dès le début, la CAN est un événement politique. C'est trois pays indépendants, l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, qui décident de lancer un tournoi qui va démontrer au reste du monde, à l'Europe notamment, qui colonise encore l'essentiel de l'Afrique à cette époque, démontrer au reste du monde donc que l'Afrique peut organiser quelque chose d'envergure et quelque chose de bien qui lui appartient en propre. C'est ainsi qu'est née la Coupe d'Afrique des Nations. Et au fil des ans, à mesure que les pays deviennent indépendants, en plus d'adhérer à l'Organisation des Nations Unies et d'adhérer à l'OUA, qui est l'ancêtre de l'Union africaine à partir de 1963, et même avant de s'adhérer à l'OUA, ils adhèrent à la CAF. Pourquoi ? Parce que la CAN est un moment, tous les deux ans, dans le calendrier africain, depuis ces années-là, qui rappelle l'unité de ce continent tant rêvé. Et on a donc vu, au fil du temps, les chefs d'État s'impliquer, au Ghana avec Kwame Nkrumah, au Congo avec le président Mobutu, et les présidents qui ont suivi, au Cameroun avec le président Idjo, prendre ces CAN, non pas seulement comme un événement sportif, mais un événement politique, parce que c'est cela qu'il était. Il visait soit à projeter une image d'unité, une image de progrès, ou alors ça devenait un outil de libération. Et on a vu Nelson Mandela, en 1996, essayer de réconcilier son pays derrière une victoire de l'Afrique du Sud. Donc ce livre parle de football, c'est clair. Et tous les amateurs de football retrouveront des souvenirs qu'ils ont sans doute connus. Mais il est aussi question de beaucoup plus que du football, de la politique, des guerres, des espoirs, de la musique. Donc, ce livre parle de foot, évidemment, mais il parle de beaucoup plus que du foot.
André-Michel Essungu, quelle anecdote croustillante avez-vous en mémoire que les lecteurs vont découvrir dans cet ouvrage, ou alors des anecdotes déjà connues, mais présentées de manière succulente ?
Oh là là, il y a tellement de formidables anecdotes dans l'histoire de la CAN et dans l'histoire du football africain. Mais il y en a quelques-unes qui me viennent rapidement à l'esprit. Il y en a... Par exemple, en 1972, lorsque le Cameroun organise la CAN, il s'attend à gagner parce que jusque-là, un certain nombre, pas tous, mais la plupart des pays, le Soudan, l'Éthiopie, l'Égypte et le Ghana, lorsqu'ils ont organisé, l'ont remporté. Sauf que malheur, le Cameroun perd contre le Congo-Brazzaville, but de Minga Pépé, ou de Mbodo Sorcier plutôt. Et à la fin de ce match, tout le monde est sous le choc. Le président Idjo envoie des ministres en prison, des officiels du football en prison et demande une réforme complète du football. Donc des anecdotes comme ça, il y en a un tas dans ce livre qui m'a emmené à chercher davantage et à trouver des choses très intéressantes sur le football et sur la politique en Afrique.
André-Michel Essungu, vous évoquiez là le palmarès de quelques nations dans cette compétition de football. Alors, en 35 ans, l'Égypte a remporté cette compétition 7 fois, le Cameroun en a 5, quelques autres pays en ont 4, 3 et 2. Que pensez-vous alors de ce palmarès ? Est-ce toujours, comme vous le dites, l'implication de la politique ou bien il y a les efforts sportifs qui dominent le plus dans ces victoires ?
Il y a toujours les efforts sportifs, évidemment. Le talent de ces joueurs, de ces générations de joueurs est énorme. Mais le poids du soutien politique n'est vraiment pas négligeable. En fait, il n'y a presque pas, dans l'histoire de la CAN, de pays qui ait gagné sans bénéficier du grand soutien de l'État et depuis le sommet en général des chefs d'État. Parce que faut pas oublier que ça coûte cher préparer une équipe pour ce genre de compétition, les hôtels, les voyages et les primes. Et en général, nos fédérations, évidemment, n'en ont pas les moyens.
Dernière question, André-Michel Essungu. Dans une semaine commence une autre édition. Ça sera la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle aura lieu au Maroc. Quel pays voyez-vous remporter cette édition et pourquoi ?
Oh, il faut sans doute considérer le Maroc en grand et super favori. Il ne faut jamais en Coupe d'Afrique ignorer l'Égypte, quelle que soit la forme dans laquelle l'équipe se présente. Au-delà de ce chapeau Afrique du Nord, oui, il y a sans doute la Côte d'Ivoire, le Sénégal dans une certaine mesure qui peut reposer sur de très grands joueurs, qui a des pays comme le Cameroun dont il ne faut pas attendre grand-chose, si ce n'est une surprise, comme il y a à peu près une dizaine d'années. Le Congo est sans doute très bien placé. Ses performances sont pour le moins intéressantes. On sait qu'il va avoir de fabuleuses surprises. On a vu la Guinée équatoriale. De toutes les façons, pour nous, c'est une fabuleuse compétition et probablement la meilleure au monde parce que nous sommes Africains et on attend avec plaisir.
Nous souhaitons donc bon vent à l'ouvrage Coupe d'Afrique, la petite histoire de la CAN. Cher André, Michel et Sungu, je vous remercie.
Merci.
Notre invité, l'expert politique et ancien journaliste camerounais André Michel Essungu, s'entretenait avec Donna Madimba. Ainsi prend fin ce journal qui a été mis en onde par Pierre Diassinois et présenté par Jean-Désiré Kanyama. Jean Gandou Kabongo l'a supervisé. Merci à vous de l'avoir écouté.